Je ne sais pas ce que je fais. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Nous allons lire un texte dans Romains chapitre 7 à partir du verset 14. Ce qui précède le verset 14, c'est que l'apôtre Paul a une conscience très aiguë, très développée du péché. Par exemple, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort, car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. Et à partir du verset 14, nous allons lire comment Paul voit le péché. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par loi que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Avant d'aller plus loin, je vous invite à prier. Père éternel, tu nous as donné ce texte par la bouche de ton saint serviteur, l'apôtre Paul. Et Seigneur, nous nous reconnaissons nous-mêmes, pécheurs. Nous-mêmes, nous sommes dans cette situation où nous ne faisons pas ce que nous voudrions faire. Et Seigneur, nous savons que tu as envoyé Jésus. C'est ce que l'apôtre Paul va nous dire tout à l'heure. Et nous savons que tu as pris nos péchés pour le faire retomber sur ton Fils. Merci Seigneur. Amen. Je continue la lecture de ce chapitre 7. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. Et je voudrais faire comme fait l'apôtre Paul, c'est-à-dire insister sur cette question du péché. Paul apparaît anxieux dans ce texte. On voit qu'il est déçu. Il est même désespéré. Il est accablé. Il est angoissé parce qu'il se rend compte que voulant plaire à Dieu, il n'y arrive pas. Alors on va voir, on va détailler. Regardez verset 14. Par sa chair, moi je suis charnel. Au verset 18, même chose. Ce qui est bon n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Il dit qu'il est vendu au péché, c'est ce qu'il a dit au verset 14. Je suis vendu au péché. Il ne fait pas ce qu'il veut, et il fait ce qu'il est, au verset 15. Il ne fait pas ce qu'il veut, il fait ce qu'il est. C'est le péché qui habite en lui qui fait ce que lui devrait faire. Ça, c'est dit deux fois, verset 17 et verset 20, dans les mêmes termes. Verset 17, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Verset 20, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Regardez, ce qu'il appelle son moi, c'est sa chair. C'est ce qu'il dit au verset 18. Ce qui est bon n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Ce qu'il appelle son moi, c'est sa chair. Tout ce qui est charnel dans ce genre de tête qu'on habite, c'est tout ce qui nous porte à mal faire. Il n'a pas le pouvoir de faire le bien, verset 18. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Et ça, c'est ce qu'on voudrait tous faire le bien. Et l'apôtre Paul dit, j'ai pas le pouvoir de faire le bien. J'ai la volonté, mais j'ai pas le pouvoir. Je n'y arrive pas à faire le bien. Il fait au contraire le mal qu'il ne veut pas, au verset 19. Je fais le mal que je ne veux pas. Le mal est attaché à lui, verset 21. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Et il y a une loi qui le rend captif de la loi du péché qui est dans ses membres, au verset 23. Dans mes membres, une autre loi me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Cette question de la loi, on va y venir aussi. Il est aussi captif d'un corps qu'il appelle un corps de mort, au verset 24. Qui me délivrera de ce corps de mort? Vous voyez le tableau qu'il dresse, l'apôtre Paul? C'est un tableau qui est presque désespérant. Il est par la chair esclave, esclave de la loi du péché, au verset 25. On avait lu le verset 25? Je suis esclave par la chair, esclave de la loi du péché. Comme je disais, il y a l'angoisse qui transpire, il y a le désespoir, l'accablement. Il parle de sa vieille nature. Alors l'apôtre Paul, c'est quelqu'un quand même qui est solide, qui est bien planté dans ses pieds. Souvenez-vous de ce qu'il disait, alors on n'aura pas le texte, mais vous pourrez le retrouver dans vos Bibles. Si vous avez votre Bible, vous pouvez regarder dans 2 Corinthiens 11, 21 et suivant. Et, ministre de Christ, qui a été emprisonné, souvent en danger de mort, 5 fois il a reçu des Juifs 40 coups moins 1, 39 coups, 5 fois. 3 fois il a été battu de verges, coup de bâton. 1 fois il a été lapidé. Ça veut dire qu'on l'a laissé pour mort à coups de caillou. 3 fois, il a fait naufrage. C'est ça qu'il a vécu, l'apôtre Paul. Il a passé un jour et une nuit dans l'abîme. On peut comprendre, dans le coma. Un jour et une nuit. En péril sur les fleuves, en péril par les brigands, par ceux de sa nation, par les païens, en péril dans les villes, dans les déserts, sur la mer, en péril parmi les faux frères. Il a été dans le travail et dans la peine, il est exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid, à la nudité. Voilà ce qu'il a vécu, l'apôtre Paul. Et, je vous l'ai dit tout à l'heure, on trouve ça dans 2 Corinthiens chapitre 11. Regardez ce qu'il dit dans le chapitre 4, donc presque au début de Corinthiens. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent, tout ce que je viens de dire tout à l'heure, les lapidations, les coups de bâton, nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, car nous regardons non pas aux choses visibles qui sont passagères, mais aux choses invisibles qui sont éternelles. Alors, si on s'en tenait là, à cette lecture, on partagerait l'accablement, le désespoir d'apôtre Paul. Mais il y a une autre lecture de ce texte. Et on reprend à partir du verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Ah, il parle de la loi. Et l'est spirituelle. Moi, je suis charnel dans mes péchés, on en a parlé tout à l'heure. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux. Et là, donc, c'est en lui cette loi spirituelle qui lui dit ce qu'il doit faire, ce qu'il veut faire. Et je fais ce que je hais. Or, si je ne fais pas ce que si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. On a l'impression qu'il se dédouane. C'est plus moi, c'est le péché. On va y revenir. Ce qui est bon, je le sais. Il n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir, de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux. Voilà ce que je veux faire. Je fais le mal que je ne veux pas. Je ne veux pas faire le mal. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais. C'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché de mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort grâce au rendu à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Et maintenant, il s'agit de parler de la loi. Or, vous voyez, c'est en rouge, hein, la loi de Dieu, là, dans le premier verset. La loi, on en parle au verset 14, on en parle au verset 16, on en parle au verset 22, et on appelle ça la loi de Dieu. Au verset 23, la loi de mon entendement. Et au verset 25, on a aussi le verset 25, là. Donc, c'est encore la loi de Dieu. Il est par l'entendement esclave de la loi de Dieu. Et cette loi, eh bien, c'est tout simplement la loi que Dieu a donnée à Moïse, que Moïse a transmise, et que l'apôtre Paul, au départ, pharisien, zélé pour la loi de Dieu, c'est l'apôtre Paul qui avait comme objectif suprême d'obéir à cette loi. Mais maintenant qu'il a connu comment Dieu le voit dans le fond de son cœur, maintenant il se rend compte qu'il est soumis à une autre loi, au verset 23. Je trouve dans mes membres une autre loi. Au verset 21, je trouve en moi cette loi, une autre loi qui s'oppose à la loi de Dieu. Verset 23, une autre loi qui me rend captif. Alors, à la fin du texte, vous voyez, la loi du péché qui est dans mes membres. Il a donc découvert qu'à côté de la loi de Dieu, qui était censé amener les gens au salut, il y a cette loi du péché, qui s'appelle aussi la loi de la mort. On voit ça au verset 2 du chapitre suivant. La loi du péché et de la mort. Il y a donc ces deux lois qui sont en lui et qui s'opposent en lui. Je vais vous raconter une petite histoire. En Calédonie, il y a des églises qui sont pleines, l'église évangélique libre, les églises évangéliques d'autres, protestantes. Elles sont pleines de gens qui chantent des cantiques, qui sont heureux, qui font kericiano. Kericiano, ça vient de keri, c'est-à-dire la proclamation. Tous les ans, ils prennent un village et ils font kericiano dans le village. Et ces gens-là, ils ont des chorales. Chaque paroisse a sa chorale. Et ils font des concours de chorale. C'est à qui chantera le mieux. Donc, quand on vient de l'extérieur, quand moi j'ai vu ça la première fois, j'ai dit, ceux-là, ils sont zélés pour le Seigneur. On les appelle des églisés. Tu te souviens de ça? Églisés. Ça veut dire que ce sont des gens qui remplissent les églises. Et pas plus. Il y a aussi d'authentiques croyants. Il y a aussi des Kayemeoun que tu connais bien. Ou on pourrait en citer d'autres. Hein. Des gens qui ont capté l'évangile et qui sont sincères dans leur démarche. Mais il y a des églisés. Et ces églisés-là, eh bien, ils connaissent par cœur les prières, connaissent par cœur les chants, ils chantent, hein, ils font plus ces églises. Et puis, une fois sortis de l'église, bon, maintenant, je fais ce que j'ai envie de faire. Le péché, bon, je sais, je suis pécheur, mais tout le monde est pécheur. Et puis, de toute façon, Dieu, il est là pour pardonner, c'est son... Il y en a qui disent, c'est son affaire, c'est son job. Vous voyez la différence qu'il y a entre être églisé, n'avoir pas une conscience correcte du péché, et au contraire, pécher allègrement, et puis dire la prochaine fois, je viendrai à l'église, demander pardon, et puis c'est ramené. C'est cela, la voie du péché qui est dans ce monde. Et cette loi du péché-là, elle lutte contre la loi de Dieu, la vraie loi de Dieu. Paul, je disais, il est accablé. Mais en même temps, moi je ne vois pas dans ce texte quelque chose qui est irréversible, qui est irrémédiable. Parce qu'en même temps, qui montre son écartèlement entre cette loi de Dieu qui agit sur sa conscience régénérée et qui le tire vers le haut, veut faire ce qui est bien, il y a cette loi du péché et de la mort qui le tire par ses pulsions, par ses convoitises, par ses envies, qui le tire vers le bas. Et il est constamment écartelé entre les deux forces antagonistes. Mais ça vous rappelle personne, ça? Vous voyez pas des gens qui sont un peu comme ça, là, pris entre cette loi qui nous tire vers le bas, par nos pulsions, et puis la loi de Dieu qui nous tire vers le haut, par notre conscience régénérée? Soyons, voilà, lucides. Soyons lucides. Et comprenons que, ici, ce que dit l'apôtre Paul, on pourrait, chacun de nous, le prendre pour notre compte. Prendre conscience que nous aussi, on voudrait faire ce qui est bien, et que nous aussi, eh bien, on fait le mal qu'on veut pas. Donc, comme l'apôtre Paul est accablé, n'ayons pas peur d'être accablés. Je dis n'ayons pas peur, pourquoi? Parce que maintenant, l'apôtre Paul, il va nous donner la clé pour résoudre ce dilemme. La clé, elle est où? Elle est au verset 2 du chapitre 8. Je commence au verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Ah, une troisième loi dont on n'avait pas parlé. On avait parlé de la loi de Moïse, on avait parlé de la loi du péché. Et l'apôtre Paul, il nous montre qu'il y a une troisième voie, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'elle a fait, cette loi? Elle l'a affranchie, libérée de ces fameuses lois du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, sous-entendu, de Moïse, parce que la chair, ma vieille nature, la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair de Jésus, en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Cela, afin que la justice de la loi soit accompli en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Donc, vous voyez cette démarche que l'apôtre Paul a suivie et en fin de compte nous invite à suivre. Le constat, la lucidité, que celui qui manque de sagesse fasse quoi ? La demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche. Référence, l'épître de Jacques. Oui, on ne va pas chercher le verset, mais on voit ça dans l'épître de Jacques. Que celui qui manque de sagesse la demande à Dieu. Et cette sagesse-là, c'est celle, c'est cette lucidité dont nous avons besoin. Pour prendre conscience qu'on voudrait bien plaire à Dieu, mais que on est tiré par le bas, par toutes nos pulsions, toutes nos envies. Une fois qu'on a pris cette conscience-là de notre faiblesse humaine, eh bien, comme l'apôtre Paul, persévérons dans la bonne direction et surtout, appuyons-nous sur Jésus. C'est lui, Jésus, qui nous donne cette loi de l'esprit de vie qui est plus forte que la loi du péché et de la mort, puisqu'elle a réussi à l'affranchir, à le libérer de cette loi qui le tirait vers le bas. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc, le constat est alarmant, mais il n'est pas irrémédiable. La situation n'est pas désespérée. Je vais vous dire ce texte qu'on trouve dans Ésaïe, mais on le trouve dans beaucoup d'endroits, et nous l'avons cité tout à l'heure. Voici sur qui je porterai mes regards, Ésaïe 66, verset 2. Sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu. Sur celui qui craint ma parole. Celui qui souffre et qui a l'esprit abattu et qui craint ma parole. Et l'apôtre Paul, toujours dans le chapitre 8, mais presque à la fin, qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera ? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et qu'est-ce qu'il fait à la droite de Dieu ? Il intercède pour nous. Christ intercède pour nous par cette loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Cette lucidité de Paul, c'est une lucidité qui le pousse à l'humilité. Chez l'apôtre Paul, et en particulier dans ce texte, on ne voit ni orgueil, ni mépris, ni jalousie, ni hypocrisie, ni haine, ni lâcheté, ni turpitude, ni convoitise, ni perfidie, ni traîtrise. L'apôtre Paul est un homme qui est saint dans sa tête, saint dans son corps, saint dans son esprit. Et donc, il trouve cette paix qui nous donnait l'impression de lui manquer au début, justement en se soumettant à, non plus à la loi de Dieu, bien qu'il ne la renie pas, mais en se dégageant de la loi de l'esprit de mort, en se soumettant à la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Alors, je vous repose encore les questions que je vous posais tout à l'heure. J'ai l'air de vous accabler, de vous accuser, pas du tout. Moi, je connais ce genre de situation d'angoisse, d'accablement, peut-être même du désespoir, quelquefois. Mais voilà des textes qui nous réconcilient avec Dieu. Est-ce que ces angoisses de Paul sont actuelles ? La réponse est oui. Que nous enseigne ce qu'il est en train de vivre ? Il nous enseigne justement à nous tourner vers Jésus-Christ. Et bien entendu, qui n'est pas de dire ok, maintenant je suis marqué de Jésus. On n'est pas des églisés. On n'est pas censé être des églisés. On est des enfants de Jésus. Et donc, on fait ce qu'on dit, on dit ce qu'on pense. Alors, entre notre entendement qui nous tire vers le haut et notre chair qui nous tire vers le bas, qui doit l'emporter? Ah, question qu'il faut se poser. Et comment sortir victorieux? Quand je dis ma chair c'est moi, quand je dis mon entendement c'est moi, vous voyez que là je suis quasiment schizophrène, si on peut dire. Mais c'est lequel moi qui doit sortir victorieux de cette lutte? C'est le moi de l'entendement, bien entendu. Voilà, je terminerai simplement par cette promesse de Jésus, Jean chapitre 10, versets 27 et suivants. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Que le Seigneur vous bénisse.